C'est tout. Et c'est ce combat spirituel.
Ben, le combat spirituel, vous avez vu dans le film, je dis je pourrais l'appeler le combat spirituel, mais ça serait compris que de 4 ou 5 personnes. C'est le titre que Rimbaud donne dans Une saison en enfer. Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes, etc. Il y a eu un manuscrit que tout le monde a recherché fébrilement après, qui s'appelait La chasse spirituelle. Il y a eu des faussaires qui l'ont fait sortir après la guerre. Seul André Breton, dont vous avez vu que je célèbre la présence, parce que ce livre pourrait lui être dédié. Pourquoi ? Parce qu'il faut se mettre en état de concentration et aller chercher les poésies de l'autre amour à la Bibliothèque nationale et écrire ces grands livres que sont Nadja ou Arcane 17, etc. Donc là, c'est ça la question essentielle. C'est-à-dire que ça veut dire qu'une certaine expérience de vie transforme ou révolutionne, et que un certain nombre de textes fondamentaux, Dieu sait si Breton a insisté là-dessus, sont là pour vous aider. Autrement dit, il y a eu, alors que Maurice Nadeau, à l'époque, authentifiait le texte, etc., qui était une grossière falsification de Rimbaud, seul Breton, dans un texte absolument fameux, qui s'appelle « Flagrant délit », a mis le doigt sur l'imposture.
Dans ces voyageurs du temps, il y a cette dimension du temps.
Il y a cette dimension du combat spirituel permanent qui est une guérilla. C'est pour ça que j'ai introduit aussi la figure de T. Lawrence dans ce texte absolument merveilleux qui s'appelle L'art de la guérilla, qui m'a été confié par Pierre Naville avant sa mort. Vous savez que Denise Laville, sa femme, a traduit non seulement Clausewitz, mais Hölderlin, a été une grande personnalité de notre temps. Et Naville m'a donné ce texte. Ce texte est prodigieux d'intelligence. En deux mots, vous êtes dans le désert. Vous avez affaire à des combattants irréguliers, c'est-à-dire absolument analphabètes. C'est meilleur qu'ils ne soient pas cultivés, parce que comme ça, ils ont une mémorisation intense des ordres qu'on leur donne. Vous transformez le désert en océan. Vous faites une guerre dans le sable interminable, comme si vous étiez en bateau. Et vous évitez les attaques frontales, vous frappez, vous vous retirez, vous frappez, vous vous retirez. Le but étant que l'ennemi finisse par manger sa soupe avec un couteau. Formule admirable. Voilà, ça c'est une stratégie pour un écrivain. Il faut que l'adversaire, qui est partout, finisse par manger sa soupe avec un couteau. La guérilla, la poésie, c'est la guerre. Il est dommage que tous les poètes soient désormais anesthésiés dans la misère totale de la poésie de notre temps, qu'ils soient résignés à avoir leur petit livre, leur petite collection de merde, leur petit poème. La poésie, c'est grandiose. La poésie, c'est une guerre grandiose.
C'est une guerre contre la marchandise, vous disiez tout à l'heure, contre
la marchandise,
le spectacle, sociologique.
Oui, tout ça, oui. Ben, tout ça, c'est la fin de la poésie. C'est la fin de l'être humain c'est son évacuation résignée au suivant, oui. Voilà. Moi, je fais un peu de... Oh, allez, on va risquer un grand mot, je fais un peu de métaphysique, allez.
La métaphysique et de la résistance par le biais de la métaphysique.
Ben, il me semble que ça me vient comme ça, vous voyez. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Sinon, je m'ennuie. Donc, faut pas s'ennuyer. Se demander, c'est ce qu'on fait là. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Être constamment étonné par le fait. Ça, c'est des questions qui traînent partout si on s'en empare. Comme dit Pascal, je vois que des somnambules.
En ce sens, chacun de vos livres, on peut dire qu'est un livre de combat, guerrier.
Oui, c'est pour ça qu'il y a des avancées, des reculs. C'est normal. J'attaque, on m'attaque. Parfaitement normal.
Est-ce que vous pouvez...
Je vais vous dire par exemple un truc. Ça va vous amuser. Je pêche dans la presse. Figaro Madame, ça vous plaît? Non. Bon, moi non. Mais voilà ce que je lis sous la plume de Pigis, je suppose, qui s'appelle Valérie Gans. Les voyageurs du temps de Philippe Solers. Philippe Sellers bande encore. Je vais demander d'ailleurs à mon éditeur et ami de faire une énorme publicité avec cette seule phrase. En très très gros caractère, parce que je vois un effet énorme. Philippe Sellers bande encore, signé Figaro Madame. Je n'ai pas besoin de continuer. Non, parce que si, quand même, c'est intéressant pour voir à quel point on vit dans une sorte de préchi-précha pseudo-féministe. Philippe Sellers bande encore. Là, on est au début du livre, parce qu'il a des ennuis avec... des objections de la part de la femme avec qui il se trouve à Rome. Philippe Sellers bande encore, on est content. Là, je vois que c'est une jeune femme, que je suppose jeune, bien sûr, parce que vraiment, qui aurait dû dire, Philippe Sellers bande encore, on est contente, au pluriel. Non.
Elle aurait pu.
En tout cas, elle ne le dit pas. Alors, Philippe Sellers bande encore. Publicité, là. Moi, je rêve d'une page entière. Philippe Sellers bande encore. Figaro, Madame. Ça dit tout, vous trouvez pas? Oui. Mais à son corps défendant, si j'ose dire, la tête n'est pas d'accord. Ouais, ouais. Vous savez, vous remarquez l'extraordinaire distinction de... C'est très Figaro, quoi. Hein, très Figaro, non? Ouais, ouais. Que celui qui n'a pas un jour rapporté cette excuse à la maison lève le doigt. Rapporter une excuse à la maison. Est-ce que vous imaginez où nous en sommes? Pardon.
Non, mais je vous en prie.
C'est comme une autre qui parle de mes fanfaronnades, de mes rodomontades, qui traque. Mais c'est extraordinaire. Là, je touche, il faut insister un petit peu, je touche quelque chose. Hein, oui, je crois. C'était déjà dans Femme qui a touché beaucoup. C'est un roman. Vous savez, vous pouvez le reprendre. Prenez-le. Il est en livre de poche. Il n'a pas une ride. On pourrait le commenter très longuement. C'est écrit il y a 25 ans. Eh bien, ça empire.
Il y a une citation de Femme dans le livre, qui est cette citation, justement.
Je me demande quel est l'écrivain à la fin du XXe siècle qui a osé écrire ce livre.
Citation sur les mères.
Le monde appartient aux femmes, c'est-à-dire à la mort. Là-dessus, tout le monde ment. Tout le monde ment sur la mort, tout le monde, oui. Ah oui. La mort, nous y reviendrons, si vous voulez. Par exemple, avec ce livre fabuleux que vous allez tous lire, ce sont les mémoires de Claude Lanzmann. Vous verrez comment il est ce chevalier qui dit la vérité sur la mort. Lui et presque lui seul.
Les mémoires de Claude Lanzmann qui vont paraître au mois de mars chez Gallimard.
Oui. Précipitez-vous. Je n'ai pas lu. Vous verrez ce que c'est que la dénégation, la force de la dénégation par rapport à ce qui lui est arrivé quand il a fait Shoah, etc. Bon, c'est l'actualité. Hein. Vous avez cet évêque Williamson... Qui chie comme ça. D'ailleurs, c'est un anglican converti au catholicisme, mais il ne faut pas dire que ça n'a pas d'actualité. Voilà. Là, on reviendra sur la mort, Nathalie, l'autre fois.
Là, on peut-être revenir un tout petit peu à la gnose, si vous le voulez bien. Donc, cette façon de s'extraire de la chronologique, de ce que vous appelez le temps générationnel.
Le biopouvoir.
Le biopouvoir.
Ben oui. Il y a un temps
biologique. Le temps biologique, c'est ça.
Ben, le temps biologique. Vous allez le concrétiser probablement sur votre tombe. Il y aura votre date de naissance et la date de votre mort. Nous sommes d'accord.
Nous sommes d'accord.
Voilà. Et les familles veillent à ce que ça soit dans cet ordre-là.
Et cette façon, par exemple, d'inscrire votre
Je change le calendrier, oui.
Dans le calendrier Nietzsche.
Vous avez vu que mes amis faisant ce film ont mis très discrètement à la fin, en chiffres romains, l'année 121. Pourquoi? Parce que je reprends déjà depuis une vie divine le calendrier établi par Nietzsche dans un geste d'ambition démesurée, mais que j'approuve. De faire un nouveau calendrier à partir de son illumination du 30 septembre 1888. J'explique ça en détail dans Une vie divine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, c'est que où tout le monde adopte le calendrier chrétien. Hein, si je suis bouddhiste, japonais, n'importe où, je ne signe pas une transaction. C'est un calendrier qui est devenu exclusivement économico-politique. Je ne peux pas signer une transaction financière aujourd'hui avec une autre date que 2009, sans quoi elle ne sera pas validée. Donc vous voyez que là, encore une fois, si vous êtes dans cette datation, vous êtes obligé de vous conformer à un certain nombre d'interprétations, de fantasmes. C'est un calendrier chrétien pour la planète tout entière. Or, les gens sont chrétiens une fois sur trois ou quatre, il n'y a pas que ça. Voilà, moi je crois que nous sommes en 121.